Eh bien, Antoine, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nouveau numéro de Par ici, il est sorti. Poursuite de l'intégrale de Miles Davis. Et avec cette émission, comme quoi l'abondance de biens nuit parfois à tout collectionneur. Et puis aussi, quelques nouveautés à se mettre sous la dent. Nouveautés que l'on ira écouter plutôt du côté du piano ou des pianistes d'ailleurs. Et oui, abondance, abondance, parfois tu nous joues des tours. En effet, je souhaitais absolument retrouver un album dans lequel figurait cette session où Miles Davis rencontre Sidney Bechet. Et bien, malgré mon classement et ma pensée à savoir que j'avais bien classé tous mes albums, j'ai dû passer tout le week-end pour trouver cet album-là. J'y suis enfin arrivé, il faut dire qu'il n'est pas sous le nom de Miles Davis. Ce qui explique peut-être beaucoup de choses, mais en fait, retrouver Miles Sidney Bechet, c'était tellement important que j'ai pensé qu'il fallait faire un retour en arrière. Donc, on va se retrouver dans les années 49, alors n'imaginez pas qu'on va retrouver Miles Davis jouant de la Nouvelle-Orient. Pas du tout. C'était simplement ce retour en arrière, c'était pour une jam session qui en fait clôturait le festival de jazz de Paris en mai 1949. Et pour la première fois, parce qu'ils étaient présents tous les deux lors de ce festival, Miles Davis allait jouer avec Sidney Bechet. Alors, c'est certes pas une de ces rencontres qui ont marqué l'histoire de l'œuvre de Miles Davis ou même l'histoire du jazz, mais c'est une séance qui mettait fin vraiment à ce festival avec une réunion de musiciens français, d'américains, qui avaient pris part de près ou de loin à ce festival. Pour résumer la composition du groupe, il y avait donc aux trompettes Aimé Barelli, Bill Coleman, Miles et sans doute, parce qu'on n'en est pas sûr, Kenny Dorham, Oran Otis Page, donc aux trompettes. Russell Moore était au trombone, Hubert Austin lui était à la clarinette, Sidney Bechet, donc Pierre Braslavski était au sax soprano, Don Byas et James Moody au ténor, au piano il y avait Al Haig, au vibraphone Azzy Osterwald, à la guitare une surprise c'était donc Jean Tillmans qui s'appelait pas encore Toots parce qu'il n'était pas à l'harmonica mais à la guitare je précise. Il y avait Tommy Potter à la basse et Max Roach à la batterie pour un blues qui n'avait pas de titre, qu'on avait appelé donc Anti-Taglight Blues, qu'on a finalement, sur certains albums, notamment le mien qui est un spotlight, intitulé Blues Final. Donc on est le 15 mai 1949. Thank you. Ceci avait déchaîné les foules, c'était en 1949, et donc après ce retour sur l'année 49 de Miles Davis, on va reprendre le cours normal de l'intégrale de Miles en 1950, donc. Et on l'avait quitté, Miles, au mois de mai 1950, et malheureusement pour lui, eh bien, tout va le plus mal du monde. En effet, il faut, si on peut faire un petit rattrapage cours d'histoire sommaire, c'est l'époque où bien apparaissent à New York et dans tous les États-Unis l'essor de la voiture, l'essor de l'électroménager, c'est la pleine conso, et bien évidemment les Américains ont d'autres chats à fouetter que les clubs de jazz. Alors, eh bien, les clubs ferment les uns après les autres dans la 52e rue, tout va au plus mal, et c'est même l'époque où les big bands, même les plus notoires, se sont dissous, tel celui de Count Basie qui va passer de 15 musiciens à un simple octet. Et puis rien n'épargne même les plus grands. Alors le Birdland, qui est quand même le club en vogue de l'époque, souhaite lui malgré tout profiter de ce qu'il peut encore rester de valable au sein de ce jazz, et il va souhaiter réunir un big band de première bourre. Il va donc embaucher un big band où tous les musiciens pourraient être des leaders. Parce que, je vous donne la composition, section de trompette Dizzy Gillespie, Miles Davis, Fats Navarro, Kenny Dorham, Red Rodney. Section trombone Kay Winding, Gigi Johnson, Benny Green. Section sax, et j'en passe et des meilleurs, Jerry Mulligan, Lee Konitz ou Broomour. À la rythmique, c'est Art Blakey à la batterie, donc Art Taylor au piano et Al McKibben à la basse. Ce big band, alors les patrons du Birdland voulaient l'appeler le Dizzy Gillespie Dream Band, carrément. Mais Dizzy va refuser tout simplement en disant « Non, c'est pas mon orchestre » parce qu'il faut dire que chacun des musiciens se tirait une telle bourre pour prendre les plus grands solos et les plus longs qu'eh bien Dizzy n'était noyé dans la masse et n'avait pas plus de prépondérance que d'autres quant à la direction de l'orchestre. Alors le Birdland va souhaiter trouver un autre nom, et je vous l'avais dit, le présentateur Symphony Sid présentait fréquemment à la radio donc des retransmissions du Birdland, raison pour laquelle ce big band va s'appeler le Symphony Sid Dreams Band. Malheureusement pour nous, il n'y aura aucun enregistrement en retransmission radio et on n'a donc aucune écoute possible de ces sessions. Alors il faut dire qu'en plus, noir de noir de chez Miles, il est de plus en plus accro à l'héroïne, et au cours d'une tournée avec le Billy Eckstine Band, eh bien, à Los Angeles, au mois de septembre, il va se retrouver en prison avec son compère Art Blakey. Ils se font choper par la police avec des doses d'héroïne, et par conséquent, à cette époque-ci, on ne permettait rien aux Noirs, et par conséquent, c'est direct la géole. Et donc Miles fera la rude épreuve de la prison. Alors évidemment, jusqu'à présent, les revues spécialisées telles en Beat ne s'étaient pas fait écho de l'introduction massive de la drogue chez les jazzmen. Mais là, eh bien, ça fait la une de tous les journaux, et par conséquent, Mike va se retrouver pendant pas mal de temps à ne point trouver d'embauche, car aucun patron de club ne veut de lui. Et il faudra attendre les fêtes de Noël et le début de l'année 1951 pour que Mike retrouve, là aussi, malheureusement, on va le dire, une autre droguée notoire, c'est Billie Holiday. C'est aussi la seule rencontre que Miles fera avec Billie. Il en gardera un souvenir immémorable. Il dira que c'est peut-être la plus grande femme du monde et qu'elle n'avait qu'un souhait, c'était chanter, et que malheureusement, eh bien, tout le monde ne pensait qu'à lui tirer son argent et à lui foutre des coups sur la figure. Billie Holiday, c'est une autre histoire, on pourrait en faire là aussi. Il y a eu bien des romans qui ont été faits autour, des films également. Mais pour l'instant, on va rester sur la collaboration de Miles et Billie. Et lorsque Billie, 4 ans avant sa mort, demeurera chez elle, eh bien Miles lui rendra fréquemment visite avec son fils, et ils passeront là de longues journées ensemble à discuter, et Miles se rappellera toujours que Billie l'a fortement aidé. Il n'oubliera donc jamais cette période-là. Et puis, à la fin de ce mois de janvier 51, la fin du calvaire de Miles arrive enfin. Il va retrouver les studios parce qu'il a pu payer enfin son amende qu'il avait écopé pour sa détention d'origine à Los Angeles. Et le 17 janvier, Miles va retrouver les studios avec Charlie Parker. Alors, par rapport à cette séance, évidemment, Miles s'en souvient dans ses mémoires et il dira tout simplement que c'est vraiment une séance exceptionnelle pour lui parce que pour une fois, Bird était en bonne forme. Il a joué formidablement, les autres aussi d'ailleurs. La musique avait un fond latin. Elle était fortement intéressante. C'était l'une des séances les plus organisées que j'ai vu Bird mettre sur pied. Tout s'est passé en douceur, même si, comme d'habitude, il n'y a pas eu ou très peu de répétitions. Il faut dire que les répétitions se faisaient pratiquement en même temps que l'enregistrement. Raison pour laquelle, pour ce thème, She Wrote, il y aura donc deux prises. Alors ça va débuter et finir par une longue intervention de tous les membres du groupe, bien plus importante que celle utilisée jusqu'à présent pour annoncer les solos. J'ai choisi la version numéro 1, la première prise, alors elle s'arrête brutalement après un court solo de piano. C'est ainsi qu'on peut se rendre compte du travail qui est effectué donc Charlie Parker autour des thèmes qu'il souhaitait enregistrer. She Wrote par le quintet donc de Charlie Parker le 17 janvier 1951. Je vous l'ai dit, la fin est brutale, c'est parce que j'ai choisi la prise numéro 1 et pas la numéro 2 qui finit d'ailleurs aussi brutalement. Donc les musiciens ont pratiquement répété en studio, mais c'est à prouver ainsi quelle était la qualité du jeu de Charlie Parker, même lorsqu'il savait que l'on faisait plusieurs prises, eh bien ses solos étaient toujours aussi magnifiques. Et je vous donne quand même la composition du quintet retenue pour l'occasion. Il y avait donc Miles à la trompette, Charlie Parker bien sûr à l'alto, la rythmique Walter Bishop, un tout nouveau venu au piano, Teddy Kotick à la basse et Max Roach à la batterie. Le deuxième thème, Kansas City Blues, est une improvisation sur le blues, magnifiée par la prestation de Parker, qui joue ici, évidemment, le titre l'indique, comme au temps de sa magnificence à Kansas City. On sent dans le jeu de Parker, tout simplement, ce qui va annoncer un peu plus tard le jeu de notre grand saxophoniste Cannonball Adderley. Et puis, on retrouve donc Miles qui va rester un peu sans voix tellement la qualité du solo de Parker est exceptionnelle, tandis que Walter Bishop, lui, va se contenter de suivre Parker du mieux qu'il le peut dans ce KC Blues. KC Blues, donc par le Charlie Parker All Stars. Et puis on va enregistrer cette fois-ci une ballade qui a pour titre Star Eyes. Elle s'ouvre par une brève intervention de Miles à la trompette bouchée, avec une ambiance de rythme latino, on va dire. Une fois encore, c'est Charlie Parker qui ravit la vedette, même si Miles prend un solo de grande facture avec sa nouvelle sonorité à la fois si ronde et si chaude. C'est vraiment l'évolution du moment de Miles Davis qui a abandonné un peu ce phrasé, on va dire, bebop qu'il avait précédemment avec Charlie Parker et qui commence donc à laisser poindre ce qui va devenir vraiment sa spécificité, cette sonorité qui fera de lui un musicien à part entière dans l'histoire du hard bop qui va venir. Et puis après, on verra dans le domaine de la trompette électrique. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est encore en 1951, le 17 janvier, pour cette ballade Star Eyes. Thank you. Les premiers pas de Miles dans le domaine, on va dire, du latino, même si ce n'est vraiment qu'une esquisse du latino sur un fond qui est juste une petite rythmique développée donc par à la fois Max Roach et Teddy Kotick. Et puis, on va donc terminer la séance de ce 17 janvier 1951 avec le thème au private, où eh bien, c'est quand même pris sur un tempo un peu plus rapide, ce qui montre encore tout le talent de ces deux grands musiciens que furent donc Charlie Parker et Miles Davis. C'est toujours enregistré, très bien enregistré d'ailleurs, parce que c'était chez Verve, donc c'était quand même une prise de son de qualité. Alors, je dois vous dire que donc demain, on ne retrouvera pas Miles, parce que c'est l'émission Caliente et Caliente, où on parlera plutôt Latin Jazz et rythme et chansons espagnoles. On retrouvera donc Miles jeudi, avec là aussi pas important. Première rencontre de Miles avec Sonny Rollins. Et puis, une petite curiosité, on pourra écouter Miles, non pas à la trompette, mais au piano. Donc pour l'instant, on va quand même rester sur le 17 mai 1951 avec ce thème au private. Et bien voilà, donc avec ce Au Private termine la session de ce soir consacrée à l'intégrale de Miles Davis. Et puis on va donc se tourner du côté des nouveautés, tout en vous rappelant que vous écoutez donc par ici les sorties, l'émission de jazz quotidienne de Divergence FM 93.9, sauf le mercredi, puisque le mercredi, c'est émission Caliente Caliente autour du Latin Jazz, des rythmes et des chansons en langue espagnole avec ma compère Jessica Mendoza. Mais tout ça, c'est pour demain. Pour l'instant, donc, retour aux nouveautés avec, je vous l'avais indiqué en début d'émission, peut-être un petit tour du côté du piano ou des pianistes. Alors hier, en fin d'émission, et j'ai trouvé cela un peu dommage, on est obligé de chanter l'album donc, de Mark Copland qui a pour titre Crosstalk, notamment avec le saxophoniste Greg Osby, qui, vous le savez sans doute, a fait partie du M-Bass de Steve Coleman. Eh bien, on va retrouver ce musicien qui ne démériterait pas certainement si Charlie Parker pouvait l'écouter. Peut-être que dans son troisième ciel, il peut encore l'écouter. Il est ici donc avec Marco Plant piano, Greg Osby, donc lui est à l'alto, Doug Weiss à la basse, Victor Lewis à la batterie, pour un thème composé par le célèbre hardbopper Gigi Rice, vous savez celui qui avait composé ce Rice, et ici ce sera donc le thème Minority.
Thank you.
Extrait de l'album Crosstalk paru chez Act Music, c'était donc Mark Copland et Greg Oxby dans ce thème Minority. Alors c'est vrai que l'habituelle formule piano, c'est bien sûr piano, basse, batterie, le trio habituel. Parfois des musiciens ont d'autres idées et notamment le pianiste indien Vijay Iyer qui a toujours lui c'était associé le jazz avec la musique indienne. Alors dans bien des cas, les musiciens vous diront qu'il est très difficile de mettre en parallèle, tout au moins faire cohabiter, la guitare et le piano. C'est pourtant ce qu'a souhaité faire Vijay Iyer dans son dernier album Tirtha. Je viens de commettre une erreur, je vous ai indiqué que l'album de Mark Copland était paru donc chez Act, c'est totalement faux, il est paru chez Pirouette. Veuillez m'en excuser. Et d'autre part, donc cette fois-ci, nouveauté donc chez Act Music, c'est bien cette fois-ci le trio de Vijay Iyer, donc qui a souhaité, je vous le disais, toujours rassembler à la fois le jazz et la musique indienne. Il a donc fait appel au guitariste Prasanna, et puis également, bien sûr, dans la musique indienne, il y a forcément, presque toujours, un tabla, raison pour laquelle, là aussi, il y aura donc le tabla de Nitin Mitta. Donc pour ce thème qui porte pour titre Tirtha, qui est aussi le titre de l'album, donc par le trio de Vijay Iyer. Thank you. Sujet ailleurs, extrait de l'album Tirta, paru donc chez Act Music. Et puis je vous ai indiqué que souvent, par ici les sorties, on essaie de voir un peu ce qui se fait également à l'étranger. Raison pour laquelle, eh bien, cette fois-ci, on va aller voir ce qu'a produit un trio de jeunes musiciens italiens. Donc c'est le premier album. Alors évidemment, il fallait trouver un titre original et bon, c'est fait avec un peu d'humour. Le trio s'appelle tout simplement New Trio One. Il est composé de Marco Bianchi au piano, de Max Furiani à la batterie, d'Enzo Frassi à la basse. Ils ont intitulé donc leur album High Energy, et c'est vrai qu'ils en manquent pas du tout d'énergie, vous allez pouvoir le constater, et c'est paru sur le label italien Ultrasound. On va écouter donc ce thème par ce New Trio One qui a pour titre Bella Faccia. Thank you. de Nous, Trio One, donc trio italien, extrait de l'album High Energy, paru donc chez Ultrasound. Et puis l'année dernière, ce pianiste avait eu le grand prix du jazz vocal parce qu'il avait fait un album qui avait fait référence avec le chanteur José James. Ce pianiste, c'est tout simplement Jeff Neve. Il vient de faire un triomphe le 1er avril, c'est pas un poisson, au Duc des Lombards à Paris. Il est sur le devant de la scène aujourd'hui avec un nouvel album paru chez Universal Music en trio avec son compagnon habituel à la batterie Ton Verbruggen et puis à la basse un tout nouveau venu, le jeune Ruben Samama, un bassiste venu de Hollande. On va écouter ce trio donc dans extrait de l'album Imaginary Road avec ce très beau thème dont j'ai oublié le titre pour ne rien vous qui s'appelle tout simplement For the People.
Thank you.
Et oui, je voulais indiquer abondance de bien nus parfois, cette fois c'est abondance de paroles qui font qu'on est obligé de chanter une nouvelle fois cet album donc, du pianiste Jeff Nevé. C'est le thème For the People, l'extrait de l'album Imaginary Road, paru donc chez Universal et sorti je crois il y a à peu près 4-5 jours. Voilà. C'était donc les nouveautés de Par ici, il est sorti. Il me reste bien sûr à remercier une nouvelle fois Antoine pour sa prestation aux manettes pour la réalisation technique. Quant à moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle émission de Caliente et Caliente, donc Latin Jazz, rythme et chansons en langue espagnole et ma compère Jessica Mendoza. Et puis bien entendu, on se retrouvera jeudi pour une émission normale de Par ici, il est sorti. Poursuite de l'intégrale Miles Davis, avec encore des nouveautés, enfin plein de choses qui font ce qu'est le jazz. Il me reste également à vous rappeler qu'à la suite de cette émission, vous retrouverez Tous au poste, l'émission présentée par Gilles Gouget et Simon Morin, qui eux recevront trois groupes musicaux qui vont se produire à Montpellier dans les jours à venir. Ce sera tout d'abord le groupe Onda Cubana, un groupe qui mêle la salsa, le boléro et le son cubain. Et puis Lena and the Deep Soul, pour une ambiance type Motown, digne des grands films de Blaxploitation. Et puis, bien sûr, le saxophoniste montpelliérain Georges Crébassa, qui lui se produira donc à la laiterie dès demain. Voilà, l'émission est ainsi terminée. Je vous retrouve demain et tous les soirs de la semaine pour de nouvelles aventures jazz dans l'émission Par ici les sorties, l'émission donc de Divergence FM 93.9.
En 1799, près de Rosette, un officier de Bonaparte trouva une pierre, une stèle sur laquelle était gravé
Divergence FM 93.9.